Marche du Monde présente African Queens, ces femmes qui ont changé l'Afrique. Une collection documentaire proposée par Valérie Nivelon.
Épisode 7, Marie-Cécile Zinsou, pionnière de l'art contemporain. Nous sommes au Bénin, sur la route inter-État entre Cotonou et Ouidah. Peu après le péage, il faut tourner à droite pour découvrir le jardin d'essai de la Fondation Zinsou, l'un des trois lieux d'exposition investis par l'artiste Joël Andriano Marisoa pour les 20 ans de la Fondation. Son projet se décline comme autant de promesses en terre africaine.
Voilà, vous avez toutes les feuilles. Voilà, c'est l'inspiration de toutes les promesses. La terre et toutes les plantes viennent d'ici. Et en l'occurrence, on va voir donc la pièce maîtresse de Promesse, qui est ce projet plutôt monumental, en tous les cas dans ses projections, parce que j'ai construit l'idée d'un nouveau musée qui s'intitule le Musée des Promesses, qui est en quelque sorte peut-être le gâteau d'anniversaire des 20 ans de la Fondation. Et pour essayer d'imaginer à partir de là d'autres choses, d'autres envies, d'autres collaborations et un certain nombre d'idées.
Le Musée des Promesses, avant toute chose, c'est une œuvre. C'est une œuvre de Joël Andriano Marisoa. L'œuvre que Joël nous offre pour nos 20 ans. Je m'appelle Marie-Cécile Zinsou et nous sommes à Ouidah, où je suis devant le Musée des Promesses. C'est une œuvre très symbolique de tellement de choses, de la relation que je peux avoir avec l'artiste et des 20 ans de la Fondation. Il faut savoir que la Fondation, c'est un projet où chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il veut, ses rêves, ses émotions. Chacun apporte sa contribution à une idée d'un projet qui nous dépasse un peu tous, mais qui est qu'il faut... Il faut ouvrir les portes, il faut que les gens aient accès à l'art, il faut que les gens aient accès à cette vision du monde et cette autre façon de voir le monde.
Donner accès au monde de l'art, permettre à la jeunesse béninoise d'être accueillie au musée, offrir aux artistes africains la possibilité de créer sur le continent, ce sont les promesses de Marie-Cécile Zinsou pour sa fondation dont elle a eu l'idée en 2005. Elle avait tout juste 20 ans. Petite nièce du président Émile Derlin Zinsou, l'un des pères fondateurs de l'Afrique moderne, Marie-Cécile a hérité des qualités de son grand-oncle. Démocrate, panafricaniste et gestionnaire lucide, la présidente de la Fondation Zinsou est franco-béninoise et fière de l'être. Grandie en France, suite à l'exil familial lié à la prise de pouvoir du général Kérékou en 1972, rentrée au Bénin en 2003, Marie-Cécile est frappée par l'impossibilité d'aller au musée et plus largement d'accéder à la création artistique. Deux ans plus tard, elle lance son projet culturel dont les enfants seront les premiers visiteurs. Depuis, des millions de petits Béninois ont visité les expositions proposées et des milliers d'entre eux ont participé aux ateliers Les Petits Pinceaux. Si 2025 marque les 20 ans de la Fondation Zinsou, son histoire pionnière est aussi l'affirmation que l'art n'est plus la métaphore du développement, mais bien son expression. Marie-Cécile Zinsou, pionnière de l'art contemporain au Bénin, c'est un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde, tourné à Ouidah. Marie-Cécile Zinsou nous ouvre grand les portes du musée de la Fondation, nous donne accès à ses archives et à la préparation de l'exposition anniversaire, imaginée par son complice et ami de toujours, l'artiste Joël Andriano Marisoa.
L'idée c'est que pour l'exposition, les deux portes seront fermées et du coup le visiteur verra depuis les fenêtres.
Je pense qu'il y a quand même un peu trop de courant d'air, mais c'est pas grave.
Ok.
Marie-Cécile. Merci beaucoup. Voilà. Tu vois, au moins là, c'est quand même.
Ça, tu me dis, hein, si tu veux que je commence.
On n'a pas beaucoup de sur ton avis, oui.
Ça, je vais commencer.
Il faut retrouver les clous.
Les tout petits ?
Ouais. Ah, tu veux des tout petits clous, je ne vais pas
te les voir ? Bah, j'ai un partout.
Donc là, je vais faire un dessin. En fait, je vais faire une constellation.
Ok. Je vais chercher les clous.
Il faut les petits clous et un partout.
Tiens, toi, tu vas tenir des feuilles, moi, je vais les clous. Tu vas avoir une main avec des feuilles, une main avec des clous. Ça te dérange pas.
Problème.
On va commencer.
Tandis que toutes les équipes de l'artiste et de la fondation s'affairent pour mettre en œuvre le projet de Joël Andriano Merisoa, je me demande quel sentiment le traverse.
La fragilité. Parce que c'est ce que je ressens aussi aujourd'hui. La fragilité, pas du tout dans le mauvais sens du terme. Je prends la fragilité justement comme un sentiment à la fois riche, déstabilisant, quelque chose aussi qui est peut-être pas forcément palpable, mais quelque chose qui se vit plutôt de l'intérieur. Non mais il y a... En fait, du coup, j'ai envie de faire un quadrillage avec un fil, mais les fils vont voler. Ça s'appelle comment, la salle Tu m'étais là, je m'en souviens plus, le truc du vent.
Tu veux un fil de quel?
Je veux un fil à coudre noir.
Un fil à coudre noir.
Belge.
Un fil à coudre noir, on va trouver. Noir, on va trouver. Belge aussi.
Non, mais il faut que je raconte l'histoire. Aujourd'hui, on a le vent. Le vent, on le fait rentrer par la fenêtre, à travers. Il y a une promesse du vent qui est là. Et au lieu de l'étaler, parce qu'on débarque, c'était ça, donc du coup, on le... Et en fait, après, il va falloir effectivement les fils qui soufflent un peu. Et là, il y a un très grand tableau qu'il faut que j'amène.
Des fils fins ou des fils à coudre?
Fin, du fil à coudre.
Ok. Tu nous donnes un quart d'heure?
Non, mais attends, parce que la bobine aussi est importante.
Nous sommes à fleur de peau et en même temps, c'est peut-être là aussi la vraie raison d'être dans l'art, pour l'art. Et c'est peut-être là aussi où ça devient très intéressant d'être un artiste et de se confronter justement à des contextes comme ici à Ouida, des fabrications aussi comme ici.
Oui, il y en a qui vont tomber, elles vont sécher trop et tout ça. Donc ça c'est les feuilles des agrumes du jardin d'essai, donc c'est facile de remplacer, de retrouver de la matière. Tout vient du jardin, même les feuilles de ça.
Toi, t'as pas de marteau.
C'est vraiment un grand atelier, tout le monde met la main à la pâte.
En fait, c'est des complicités. Joël, il travaille avec tout le monde. Il travaille avec le soudeur, il travaille avec... avec le matelassier, avec toute l'équipe, chacun prend une partie. Hier, moi, j'étais à l'accrochage des plaques de terre. Aujourd'hui, je faisais petite main sur les citronniers. Voilà, on fait... Tout le monde, en fait, c'est le principe des complicités, c'est quand il fait un projet n'importe où dans le monde, en fait, il travaille avec chaque personne. Les gardiens viennent faire quelque chose, les médiateurs, évidemment, chaque personne de l'équipe... Chacun prend son rôle et participe. C'est pour ça que c'est des projets aussi émouvants et qui plaisent autant, parce que chacun a sa part de travail.
Je pense que quand on parle ou quand on évoque en tous les cas cette idée de fragilité, je pense que le terme complicité est le répondant parfait justement à cet état d'esprit. Et cette histoire de complicité, c'est quelque chose que j'évoque à chaque fois. J'insiste beaucoup sur l'idée de complicité. Une complicité, c'est une rencontre, ce sont des choses qu'on aime ensemble, qu'on déteste ensemble. Ce sont des choses qui passent à travers juste un regard, à travers un souffle. Et pour moi, c'est important. Pour revenir à Marie-Cécile, oui. C'est ça, ça fait plus de 20 ans que ça existe. En fabriquant des choses, en pensant des choses, en visitant le monde, nous avons ça ensemble.
La complicité entre Joël et Marie-Cécile se lit sur leur visage. Qu'ils sont capables de s'interroger pendant des heures sur le sens de leur engagement à la Fondation Zinsou, ils partagent des regards pétillants et une même capacité à s'émerveiller.
Et là, le labyrinthe des passions.
Comment ?
Le labyrinthe des passions. Ils sont en train de se détendre. On les a apportés de Cotonou hier.
ils devaient vivre cette nuit pour retrouver leur forme et que l'artiste puisse intervenir. Là, c'est drôle, ça nous replonge dans Venise. Et on repart direct à la Biennale de Venise et sa pièce « I have forgotten the night » qui était comme ça un dédale de soie noire, de papier de soie noire. Là, suspendu dans l'espace comme ça, c'est quand même très, très beau, très frappant.
C'est une œuvre sonore aussi.
Oui. Toutes les fenêtres vont être ouvertes. Il y a le rôle du vent, est hyper important. Il y a le palais des vents, l'œuvre. Et le vent doit faire bouger l'œuvre, etc. Là, c'est fermé parce qu'on a un accrochage, qu'il faut éviter la poussière, qu'il faut éviter. Voilà, donc les pentes sont derrière. Les accrochages, c'est comme ça. C'est un désordre énorme, on n'y comprend rien, les choses ne sont pas accrochées, il y a plein de détails techniques qu'il faut fixer. Et tout à coup, il se passe quelque chose et ça devient l'exposition. Là, l'exposition commence à se deviner. Alors que hier, c'était vraiment le chantier. Il y avait des équipes de partout, tout le temps. Il manquait toujours une agrafeuse dans une pièce, il manquait une cloison dans une autre. Là, il y a cette pièce, elle est nickel, alors tout à fait normal. On est bon là-dessus.
Voilà, c'est pas un récit fermé, c'est une ouverture, c'est un projet d'ouverture et c'est une intention d'ouverture. 20 ans, c'est quelque chose de particulier. Personnellement, je n'ai pas aimé mes 20 ans, mais ça c'est mon problème. Mais pour la Fondation, 20 ans c'est une question. Mais aujourd'hui, après 20 ans, quelles sont les nouvelles promesses ? Et la formule, elle est là. Moi, j'essaie de matérialiser, ça, c'est ce que je fais toujours dans l'ensemble de mes productions. Je prends des mots, des thématiques, un langage, parfois plutôt abstrait, mais en tous les cas, je tente toujours de transpercer une émotion, ou en tous les cas, de dévoiler peut-être un état plutôt intime. Donc, je démontre dans cette exposition la force de la terre, à double sens. La terre, encore une fois, comme ancrage, mais la terre aussi comme élément naturel, fondateur, pour puiser toutes ces idées.
On en a encore, on ne sait pas encore quelle disposition...
Oui, bien sûr. Non, mais là, c'est pas...
Mais ça rend...
C'est drôle, parce que Jean-Loup, ce matin, il lui a envoyé des images pour lui montrer à quoi ça ressemblait, et Jean-Loup disait que c'était... Ça donnait le sentiment, quand on rentre dans une forêt sacrée, tu sais qu'il y a toutes les feuilles mortes au sol, et que tu marches sur ces feuilles mortes qui tapissent le chemin. Et je trouvais que c'était assez joli comme idée, je ne l'avais effectivement pas envisagé comme ça.
Ouais, c'est beau.
C'est très beau.
C'est clair, ouais.
On y arrive ?
La magie. Et ça, il l'a tout de suite. On est arrivé au musée, il a ramassé les feuilles de tech Joël. Joël André de Meraille-Soir. Il est arrivé dans le jardin du musée, il a ramassé les feuilles de tech et l'idée était née. J'avais parlé des feuilles de tech pour la couleur. Quand on froisse les feuilles de tech, on obtient cette couleur très rouge. Et on peut dessiner avec sur le papier, sur les murs. On a fait des tests. Il a fait un dessin comme ça sur châssis, mais c'était pas la bonne saison. Le rouge n'était pas très profond. C'était pas forcément le sujet. Et il savait pas comment il allait la traiter. Il était en... Et tout à coup, l'idée est née. Et autant nous, on savait pas du tout dans quelle direction on allait, mais on lui a fait confiance. Et lui, il savait ça. Il savait ce musée envahi de feuilles, cette porte qui a des feuilles. Et... Lui savait.
assez difficile d'imaginer les choses tout de suite, mais peut-être que je peux décrire que c'est à la fois une exposition très immersive pour se retrouver, ou en tous les cas pour se confronter aux éléments de la terre. Donc la végétation nous prend dedans, j'utilise des feuilles mortes, j'utilise des plantes. Je parlais de la terre, donc je manipule réellement de la terre de Ouida, pour pouvoir en faire de nouvelles sculptures et des installations. Et en même temps, j'ai monté réellement un espace dans un jardin qui est un peu un mémorial, mais en même temps aussi que j'appelle le musée des promesses, dans lequel on peut passer, voir des choses, se reposer, imaginer un autre futur.
Dans l'atmosphère de l'accrochage de l'exposition, j'essaie moi aussi d'imaginer ce qui prend forme, ce futur bénin où les artistes peuvent créer sur le continent, avec ce qui fait son quotidien et avec ce qui compose sa nature. J'écoute, je regarde, je vois des feuilles de palmiers dont les formes inspirent à Joël Andriano Maressoa de grands tableaux, comme une écriture raturée à décrypter. Je vois une constellation de petites feuilles de citronnier clouées une à une au mur, semblant tourbillonner dans un mouvement perpétuel. Et puis tout autour de moi, des centaines de grandes feuilles de teck rouge, envahissantes et cramoisies, devenues tapisseries végétales dans une immense installation qui vous cueille et vous émeut aux larmes, tandis que le poème « Promesse » de Joël est dit par une jeune comédienne malgache, Zara Rabeharisora. À tous les étages du musée de Ouida, l'ambiance est sonore, odorante et enivrante.
Oh. C'est
le surabi.
C'est bien.
Qu'est-ce qu'elle veut
encore? Pas facile, hein. Même l'odeur déjà, ça s'ouvre. Tu ne peux pas gérer ça. Faut être puissant, comme Monsieur Henri.
L'alcool de palme nous emporte. Une fragrance peut-être déroutante, mais en même temps remplie de sensualité. Avec la chaleur, je pense que nous sommes dans un moment à la fois torride et en même temps très ancré dans la terre. Très ancré dans la terre, mais c'est aussi étonnant parce que cette fragrance de l'alcool de palme, après plusieurs conversations avec plusieurs personnes, interpelle aussi d'autres univers, d'autres géographies. Il y en a qui pensent à de la grappa, d'un seul coup nous allons en Italie, certains pensent au Japon, qui pensent au saké. Donc finalement, est-ce que cet alcool de palme ne nous promet pas des promesses très universelles, en quelque sorte? Et je pense que l'ivresse est universelle.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
La voix de la béninoise Angélique Kidjo, extrait de son album FIFA, qui signifie la paix en langue fon. Elle évoque les cérémonies vaudou, culte syncrétique au Bénin, pays de notre African Queen, Marie-Cécile Zinsou, pionnière de l'art contemporain. Mais comment est née sa fondation et à quel moment est-elle rentrée au Bénin, puisqu'elle a grandi en exil en France ?
Donc, le jour où j'arrive au Bénin, c'est le 7 octobre 2003. Mais l'avion se pose, je ne découvre rien du Bénin en fait, je rentre chez moi. Et on prend la voiture et on roule dans la ville et tous mes familiers. Je connais la présidence parce que je connais toutes les histoires du président Zinsou, du coup d'État, tout ça. Donc je regarde les chemins, je vois le siège de la radio et de la télé nationale et l'ancien siège parce que ça a été toute une histoire autour du coup d'État et donc je connais ces lieux. On est dans une époque très lointaine. 2003, c'est une époque où il n'y a pas Internet. En fait. Il y a Internet, mais il n'y a pas un usage d'Internet comme aujourd'hui. Il n'y a pas de smartphone. Les téléphones, ils ont des touches pour composer des numéros. Ça s'arrête là. Et du coup, il n'y a pas Google, il n'y a pas YouTube, et il n'y a pas de bibliothèque. Donc, enseigner l'histoire de l'art aux enfants, c'est un sujet. Et c'est ça qui me frappe. C'est en fait, on me donne toute la liberté, et c'est formidable, mais comment je vais leur raconter ? Comment je vais faire pour leur raconter la création contemporaine, les artistes du Bénin ? Il n'y a pas de musée d'art contemporain. Donc comment est-ce que je rencontre les artistes et surtout comment je peux les convaincre de venir montrer à mes élèves ? J'ai pas de lieu, j'ai pas d'espace pour ça, j'ai une classe des tables, des chaises. Donc c'est ça qui me frappe, c'est comment on va inventer des solutions. Et en fait, le Bénin, c'est un pays où on invente des solutions de tout le temps. Et donc, j'ai un ordinateur. Et ma mère m'envoie un CD-ROM du Louvre et un CD-ROM du musée d'Orsay, le double coffret, avec en cadeau dans ce double coffret le CD-ROM du futur musée du Quai Branly. Alors ça, c'est drôle. Alors du coup, on se met tous devant mon ordinateur et on visite le Louvre, on visite le musée d'Orsay, puisque c'est les deux seuls musées qui ont des CD-ROM à l'époque. Donc c'est drôle parce que c'est à ce moment-là que l'idée de la fondation naît. C'est à ce moment-là que l'idée d'avoir un espace où on pourrait montrer les choses, parce qu'en fait, c'est là qu'on réalise que si mes 60 élèves sont dans cette... si on a cette préoccupation pour eux, on l'a pour tous les enfants du Bénin, en fait. Et donc, c'est comme ça que ça commence.
Déjà, il faut savoir que c'est le souhait de beaucoup d'artistes africains de vouloir être montrés chez eux de manière convenable.
Romuald Azoumé, premier artiste à exposer à la Fondation Zinsou.
Et c'est le souhait non seulement de ces artistes-là, mais c'est aussi le souhait de quelques collectionneurs comme Jean Pigodi, dont le directeur artistique est André Magnien, qui a toujours souhaité qu'un jour, que nous soyons montrés comme ils nous montrent, avec beaucoup de respect, dehors. Quand on a une personne devant soi qui n'a pas de prétention, qui est très modeste, qui est brillante, dans les propos qu'elle tient et qui est la seule personne à vous dire de tous les discours, de toutes ces personnes qui arrivent et qui veulent bien utiliser votre nom parce que Romuald Azoumé, c'est un peu porteur pour pouvoir avoir un financement quelconque et qui vous dit « Moi, j'ai déjà le lieu et je veux montrer quelque chose dans ce lieu. » Ça, c'est extrêmement rare. Le fait de monter une collection, le fait de monter un musée comme ça, c'est beaucoup de rigueur, c'est une crédibilité à gagner avec du travail à long terme.
Au départ, je vais voir Romuald Azoumé et je lui dis « Voilà, je voudrais montrer votre travail. J'ai vu votre travail à Düsseldorf, c'est à 6000 km. J'ai besoin de montrer votre travail à mes élèves, aux enfants qui m'entourent. J'ai loué un espace. Est-ce que vous acceptez qu'on travaille sur l'idée d'une exposition ? Je ne l'ai jamais fait, mais je suis hyper motivée. » Et après quelques minutes de doute, finalement, il a compris ma motivation et a décidé que il fallait le faire. Il fallait
à l'époque, qui est Romuald Azoumé ?
Romuald Azoumé est un artiste béninois. Donc moi, j'ai découvert les œuvres dans Africa Remix à l'époque, qui commence au Kunstpalast à Düsseldorf, l'exposition de Simon Djami. Parce qu'au Bénin, j'en parle tout le temps et les gens ne savent pas me dire, en fait. Il y a une personne qui le connaît, mais je ne suis pas... En fait, elle pense qu'il est danseur de salsa. Parce que Romuald, il danse beaucoup la salsa à l'époque et c'est le meilleur danseur du Bénin. Donc voilà, au départ, c'est pas évident de savoir où il est ici, alors que les gens en parlent déjà à l'extérieur. Et voilà, c'est comme ça que ça commence avec Romuald, et on fait cette première exposition ensemble. Mais il a des tableaux, il a des œuvres, et il a gardé des œuvres importantes, donc il me les prête.
En 2005, c'est donc l'ouverture de la Fondation Zinsou avec la première exposition du premier artiste. Mais qui est le premier visiteur ?
Le premier visiteur, c'est l'enfant de l'école d'à côté qui passe voir cette chose rigolote qui a une porte ouverte et à qui on dit « mais il faut rentrer, il faut venir voir ». Et ça l'amuse beaucoup, on lui raconte des histoires. Il y a des gens qui lui racontent des histoires de bidons d'essence, puisque c'est Romuald Azoumé, le premier artiste, qui expose. Et le lendemain, il revient avec ses copains. Et donc ça, c'est lundi, mardi, 6 juin, 7 juin. Et puis après, ils sont 600 à venir vendredi parce que moi, je suis d'accord pour qu'on court dans le musée, qu'on fasse des galipettes dans le musée. Enfin, c'est pas très... Voilà, moi, je pense que le musée, ça doit être un lieu où on s'exprime, où on apprend, on découvre, mais on s'amuse aussi. C'est hyper important.
Pour la première fois, des enfants béninois découvraient une expo d'art contemporain d'un artiste mondialement connu qui n'avait jamais exposé chez lui au Bénin. Hyper important et hyper émouvant. Depuis 2005, plus d'une soixantaine d'expositions ont été présentées par la Fondation Zinsou et des millions d'enfants sont venus les visiter. Mais 2005, c'est aussi l'année du lancement de l'atelier Les Petits Pinceaux, 20 ans d'accueil et d'initiation à l'histoire de l'art et à la création.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour, enchantée.
Enchantée. Bienvenue au musée de la Fondation.
Bonjour, bonjour. C'est Philippe Marche du Monde. Donc ici au musée de Ouida, vous êtes en plein préparatif.
Oui, exactement, de l'atelier des petits pinceaux qui va débuter d'ici quelques minutes.
Vous pouvez vous présenter ?
Oui, moi c'est Zodan Charlie. Je suis un des animateurs culturels du musée de la Fondation Zinsou. Et je suis aussi encadré pour les ateliers petits pinceaux qui ont lieu tous les mercredis de 16h à 18h. Pour les enfants de 5 à 13 ans, histoire de les initier à la contemporain. 1, 2, 3.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, les enfants. Bonsoir, les petits pinceaux.
Radio Noi RFI.
Tout est prêt dans le jardin du musée pour réaliser le collage d'un bus inspiré par l'œuvre de l'artiste photographe Caleb Kwarteng Pra, figure majeure de l'art contemporain ghanéen, dont le regard profondément humain raconte la classe ouvrière.
Et l'atelier a été inspiré par une œuvre. À l'entrée du musée, on remarquait quelque chose, n'est-ce pas ? Dès qu'on entrait dans le musée, il y avait un grand morceau de bus. C'était de quelle couleur le bus ?
Bleu.
Très bien. C'est l'œuvre d'un artiste ghanéen. Son nom à lui, c'est Caleb Kwarteng Pra. On va répéter. Caleb.
Caleb.
Kwarteng.
Kwarteng.
Pra.
Pra.
Caleb Kwarteng Pra. Très bien, c'est un artiste ghanéen qui réalise des photographies de la classe populaire ghanéenne. Quand on dit classe populaire, c'est la classe des ouvriers.
Des ciseaux pour découper les tissus wax, de la colle et du carton pour les fixer, et puis du papier canson pour dessiner les fameux minibus collectifs, moyen de transport très populaire ici au Bénin.
Chez nous déjà, on les appelle Tokpa Tokpa. C'est pour les grandes villes, les as en fait. Après le dessin du bus, il y aura l'étape du coloriage qui aura lieu avec des pastels. Et à la fin, on va coller le bus sur notre fond, le support. Et après, on va essayer de rajouter quelques personnages et des détails comme les roues, des morceaux de tissu pour faire juste un peu comme de la décoration. Donc là, en fait, c'est la grande idée de l'atelier.
Et ça, on l'explique aux enfants dans quelle langue hein ?
Ah, les deux. On essaie de... Oui, en français et en fond. On a des enfants de 5 à 13 ans. Et des fois, en fait, les enfants de 5 à 6 ans, ils ne sont pas vraiment aptes de comprendre
bien
parfaitement
sûr
le français. On est obligé de faire le mélange.
Bien sûr, on parle dans la langue du Bénin. Il y a plusieurs
exactement
langues au Bénin.
Exactement, la langue fon.
La langue fon.
Fon, oui.
Et comment on dit bienvenue en fon ?
Ah, on va demander directement aux enfants comme ça. On va. Mais non, non, bienvenue au fon,
mais
bon.
Mais quoi bon ?
Donc, c'est
mais quoi bon ?
Mi quoi bon ?
Mi quoi bon ?
Bonsoir et la bienvenue. Bonsoir et la bienvenue.
Ok.
Ah. Il faut te demander.
Qu'est-ce que tu fais toi ?
Moi je découpe les pneus.
Les pneus ?
Oui.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Apocalypse.
Et qu'est-ce que tu as choisi comme couleur ?
Chocolat.
Chocolat. Pour le bus, rouge.
Bleu.
Bleu.
Vert.
Et vert. Et toi, tu as fait un grand bus.
Oui, j'ai fait un grand bus. J'ai choisi couleur rouge et couleur café et orange.
Et où est-ce qu'on va aller avec ton bus ?
À Cotonou.
On va se promener dans Cotonou ?
Oui.
Ouais. Parce qu'ici, on a Ouida.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas aller faire à Cotonou avec ton bus ?
Je vais partir acheter des habits.
Tu vas aller acheter des habits ?
Oui.
Ouais.
Je m'appelle Lima SOC.
Bonjour Lima. Est-ce que tu peux me dire qui sont les personnages qu'il y a dans ton bus ?
C'est mon père.
Comment il s'appelle ?
Lima Jean Rock.
Qu'est-ce que tu voudrais montrer à ton papa, ici, au musée de Ouida ?
Un petit pinceau, ici, pour regarder une image là. Bon, mon petit pinceau de miambre là.
Bon, il disait en fait que s'il amenait son père au musée, la première chose qu'il allait lui faire découvrir, c'est le petit pinceau. Parce que son père lui donne l'autorisation de venir, mais il ne sait pas comment ça se déroule. Il ne voit que les finalités. Donc, il va lui montrer en fait ce qu'on a l'habitude de faire ici au petit pinceau. Et ils vont aussi faire un petit tour dans le musée pour voir ce qui nous inspire pour les ateliers petit pinceau. Donc tout ce qui est peinture, image, bon, je pense qu'il parle plutôt de la photographie quand il dit image. Il va juste lui faire découvrir le musée et les activités petit pinceau.
Merci beaucoup. Il a de la chance, ton papa, que tu l'emmènes au musée. Merci. J'espère qu'il va venir bientôt. Merci. Avec toi.
Merci.
On va faire un grand bon pour madame. Est-ce que ça peut aller ?
Oui.
Un, deux, trois.
De tout mon cœur.
On va dire merci à madame d'être passée.
Merci, madame.
Merci beaucoup. Merci beaucoup les petits pinceaux. Les petits pinceaux sont l'emblème de l'engagement de la Fondation Zinsou pour la jeunesse du Bénin. Ici, tout est gratuit, ou plutôt offert, grâce à la générosité des mécènes, petits et grands, à commencer par la propre famille de Marie-Cécile Zinsou, fille de l'amour métisse d'une mère vosgienne, professeure de français, et d'un père béninois, banquier d'affaires. Devenue maman à son tour, celle qui tutoie les présidents ne lâche rien. Sa priorité, encore et toujours, ce sont les enfants.
Aujourd'hui, c'est notre responsabilité à la jeune génération et je vous dis, on est dans cette phase très particulière où on a presque été plus indépendant que colonisé. Et en fait, on est dans une période, vous voyez, où il faut quand même qu'on retrouve qui on est. Il faut pas oublier qu'on a été dessiné sur un coin de table en 1885 à Berlin, assez loin d'ici. On a été décidé, donc à partir du moment où nos frontières ont été faites par la conférence de Berlin, ben on s'est retrouvé un tout. Mais en fait, la veille encore, on n'était pas un tout. On n'était pas les mêmes personnes, on n'était pas les mêmes royaumes, on n'était pas les mêmes histoires, on n'avait pas la même religion, on ne croyait pas dans les mêmes choses. Donc, enfin, vous imaginez. Et là, on passe 68 ans avec cette colonisation française. Donc, on n'est plus dahoméen, on est français. On n'est pas français non plus. Hein, on n'a pas les mêmes droits que des Français, on a les mêmes devoirs que des Français. C'est pas tout à fait pareil. Et pourquoi on a été colonisé ? Pas parce qu'on est inférieur. Donc, pendant 68 ans, on est des inférieurs. Les coups d'état militaires, ça n'aide pas au repos de l'âme et à la sérénité pour la réflexion sur qui on est. Parce qu'on est toujours ce peuple ballotté qui est devenu français après avoir été dahoméen, après avoir été royaumes ennemis. Enfin, vous voyez, on est... Du coup, quand on arrive en 80 ans à la démocratie, on est un peu sur les rotules, en fait. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être béninois ? Qu'est-ce qu'on met dans ce mot béninois ?
Moi, on m'appelle Laza. Et je suis animateur culturel à la Fondation Zinsou. Et j'ai commencé la fondation depuis 2005. Et décembre 2005.
Donc ça fait 20 ans ?
Oui, que j'ai commencé la fondation. Et j'ai eu beaucoup d'expériences. Et par rapport à ces expériences, je peux... Parce que je suis souvent en contact avec les œuvres des artistes.
qu'est-ce que vous avez appris en 20 ans, vous, Lazare, oui, à titre personnel, à force de voir ces images?
Ça m'apporte beaucoup de réflexion. Oui, ça fait développer mon cerveau.
Et des, voilà, émotions aussi.
Des émotions aussi.
Quelles, voilà, émotions?
Bon, émotions de joie. Émotions de joie surtout. Et parfois de tristesse. Parce que quand on parle de catastrophe, et ça amène il y a la guerre aussi. Donc ce n'est pas seulement des émotions de joie, mais aussi de tristesse. Parce que les sujets sont relatifs. Mais l'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est celui de Aston. Aston, c'est un artiste béninois.
En quelle année c'était? Et qu'est-ce que vous avez ressenti?
C'était en 2009. La Fondation avait organisé une exposition. Et cette exposition permettait aux artistes d'imaginer comment serait le Bénin en 2059. Et l'artiste béninois Aston avait fait une installation. Et le titre, c'est le catastrophe. Et si la population béninoise ne prend pas conscience, et il y aura la famine. Et toute la population va grimper et autour d'un seul épi de maïs.
Qu'est-ce que vous avez ressenti face à l'installation d'Aston?
Moi, j'ai ressenti une émotion de tristesse. Parce que la population n'a vraiment pas pris cette conscience-là.
Quelle conscience?
La conscience de travailler pour contribuer au développement, pour qu'il n'y ait pas la famine.
Quand vous écoutez cette phrase,
oui,
les Africains ne s'intéressent pas à l'art contemporain, oui, est-ce que vous êtes d'accord?
Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins fondamentaux. Et à quoi cela va servir d'aller regarder des objets alors que cela ne va pas les rassasier? Donc ça fait qu'ils ont de réticence à aller regarder les œuvres.
Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous, ça vous a apporté comme nourriture?
Pour moi, là, c'est un outil de développement. C'est un outil de développement parce qu'à travers l'art, vous pouvez connaître les cultures d'autres pays, des pays. Et ça va vous permettre de vous développer. Donc ça ne s'arrête pas seulement à ce que nous pensons directement, mais ça va plus en profondeur. Quand on parle de là, c'est très profond.
Qui sommes-nous?
Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou.
La restitution de la fierté, la restitution de son histoire, la restitution de sa culture, c'est mon combat depuis le jour 1 de la Fondation. Parce que la restitution aujourd'hui, c'est très associé à l'art classique qui a été emporté par les colons et qui a été exposé en France. Mais en réalité, c'est le prolongement de la conversation qu'on avait avant. Qui sommes-nous? Est-ce que on est... Qui sommes-nous? On est des pays avec des histoires incroyables. Moi, j'essaie toujours de regarder le temps long. Ici, on est dans un jardin. On a des plantes qui sont là depuis 4500 ans. On le sait parce qu'on est capable de dater le changement climatique qui a fait pousser cette végétation totalement unique. En fait, tout ce jardin est une archive végétale. Vous avez les bambous qui servaient à transporter le roi au Dahomey, qui permettaient de faire les constructions, qui étaient au centre de toute l'architecture. Le royaume du Dahomey était calculé en bambou. Le bambou était l'unité de mesure. Vous voyez, en fait, il faut prendre les choses sur ce temps-là. Il faut réfléchir les choses différemment. Et donc, la Fondation, oui, elle fait de la restitution de fierté depuis 20 ans aujourd'hui. Et puis après, il y a la question de la restitution comme on l'entend. La fameuse restitution, les 26 objets, maintenant 27. Voilà, depuis 5 ans, 6 ans, depuis le discours de 2018 du président Macron à Ouagadougou, la question de ces objets qui reviennent et de ce patrimoine qui revient, mais qui se lie dans une histoire plus longue.
Cette histoire longue du Bénin, elle passionne Ishola Akpo, l'un des artistes repérés par la Fondation Zinsou. À sa grande surprise, Marie-Cécile lui propose d'être accueillie en résidence dès 2019, ce qui va lui permettre de présenter sa première expo sur le thème des reines africaines, qui pour la plupart sont des oubliés de l'histoire.
Ce que la Fondation Zinsou m'a apporté dans ce travail que je ne pouvais pas trouver ailleurs au Bénin, c'était de me donner la possibilité de rentrer dans les archives. Alors, j'ai commencé par fouiller les archives Et je trouve qu'il n'y avait pas une histoire qui a un rapport avec les femmes. Alors que dans le Dahomey, l'histoire orale raconte qu'il y a eu des femmes qui sont restées au pouvoir, qui ont pris la tête du Dahomey pendant un certain temps. Mais quand on remonte dans les archives, il n'y a pas de femmes dans les archives. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je récrée les archives et que je replace la femme dans les années 1800. Et donc, moi, en tant qu'artiste, je me dis que j'ai le droit de parler de cette histoire, de repositionner la femme. J'ai commencé par découper, enlever la tête des rois et je replace la tête des femmes et je les couds avec un fil rouge pour montrer en fait que, oui, la femme, cette place que ce roi, ce chef traditionnel, cet homme a occupé, la femme aussi a le droit d'occuper cette place ou cette femme aussi a occupé cette place. Et pourquoi ne pas le dire dans nos archives? Pourquoi ces archives ont été cachées? Pourquoi on ne nous raconte pas les vraies histoires?
Invité pour le projet Promesse des 20 ans de la Fondation en 2025, Ishola Akpo exprime ses intentions devant les guides anciens et nouveaux, réunis en workshop par Sophie Douet, directrice de l'association Contemporary A.
Donc à la base, c'était que des pierres, mais cette fois-ci, il n'y aura pas que des pierres. Il y aura des pierres avec d'autres éléments, des archives, par exemple, que je vais ramener. Et l'œuvre va se construire avec le temps. Mais ce qui est important, c'est l'idée générale qui va questionner nos mémoires collectives, et questionner la mort, et la vie, la présence, l'absence, et qui va être en résonance avec l'œuvre globale de Joël.
Tu disais que ça pouvait aussi être des éléments, des objets qui pourraient avoir rapport avec une promesse faite à Marie-Cécile ou à Joël, à la Fondation, ce genre de choses aussi.
Oui, déjà la pierre me rappelle ma première rencontre avec Joël et à Port-au-Prince et dans les années 2010 où on s'est rencontrés pour la première fois et c'était au lendemain du séisme d'Haïti à Port-au-Prince. Donc on était pratiquement sous les décombres et tout ça. Donc. Et ça me rappelle ces pierres, ces chutes de pierres, d'immeubles aussi. Donc je vais trouver des éléments qui ont un rapport avec tout ça. Et pourquoi pas peut-être ramener des tapisseries. Et mon premier collage, où j'ai dit à Marie-Cécile, ah mais tiens, j'ai un collage. Et elle me dit, tu tiens quelque chose. Donc, tout ça, c'est des promesses. Donc c'est aussi une forme de promesse, non?
La promesse, la première promesse, c'était celle au public. Venez. Venez, on vous attend et on va tout vous donner.
Marie-Cécile Zinsou.
Je crois qu'on peut dire que c'est une promesse tenue. Et je crois que le public a tenu lui aussi sa promesse de venir et de revenir. Et oui, c'est une promesse qui s'est faite entre des millions de personnes, parce qu'on parle de plus de 7, 8 millions, 9 millions peut-être maintenant de personnes. Donc ça, c'est une promesse tenue. Et la deuxième promesse, c'est celle aux artistes. Celle dont on va tout faire pour permettre au public de voir vos œuvres et pour vous accompagner autant qu'on peut dans la création et pour célébrer votre talent, pour vous montrer, juste pour être la chambre d'écho d'un talent qui a toujours été là, mais que les gens ne regardaient pas forcément. Et je pense que c'est une promesse qu'on a tenue vis-à-vis des artistes et qu'on tient toujours. Et je pense que la promesse la plus inattendue, c'est celle de l'engagement des artistes à nos côtés. Et c'est la promesse que le public va voir dans l'exposition Promesse de Joël Andriano Marissoa. C'est la promesse qu'on s'est faite avec Jérémy Demester, c'est la promesse qu'on s'est faite avec Pauline Guerrier, avec Ishola Akpo, avec Nobel Coty, avec Aïcha Snoussi, je ne vais pas citer tous les artistes avec qui on a travaillé depuis 20 ans, mais ils le savent tous, ils sont tous autour de nous. Et cette promesse-là n'était pas forcément la promesse la plus simple, de les convaincre qu'on allait faire les choses sérieusement dans un environnement qui était différent pour eux. Mais eux se sont engagés à nos côtés, au-delà même de notre imagination.
Je vais vous donner une métaphore qui pour moi est assez importante. C'est qu'on peut imaginer le destin d'un enfant qui est né en fait le même jour que la naissance en fait de la Fondation.
Joël Andriano Meresoa.
Qui a été accompagné par la Fondation ou qui aussi a accompagné la Fondation jusqu'à 20 ans. Cet enfant aujourd'hui a 20 ans. Donc qu'est-ce que la Fondation effectivement a fait avec cet enfant? Est-ce que la Fondation a ouvert les yeux à cet enfant? Est-ce que cet enfant veut devenir un artiste? Est-ce que cet enfant veut devenir collectionneur? Est-ce qu'il d'un seul coup il aime l'art contemporain? Est-ce qu'il adore Romuald Azoumé? Est-ce qu'il déteste Joël? Je ne sais pas. Mais la question, elle est là aussi. Et cet enfant, dans les 20 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer avec ou sans la Fondation? Voilà, c'est une métaphore que je trouve assez belle et je pense qu'elle a du sens. Et que je pense que vous en avez rencontré certains, que vous avez aussi accompagnés, et peut-être que vous allez les retrouver justement dans cette célébration.
Le musée Fondation Zinsou, premier musée d'art contemporain en Afrique, fait la preuve par son succès de l'importance fondamentale de la création culturelle dans l'éducation de la jeunesse, en quête de son identité et de son histoire. Imaginé par Marie-Cécile Zinsou, soutenu par des artistes humanistes du monde entier, installé dans une sublime villa, l'architecture afro-brésilienne, le musée est traversé par l'air et la lumière de Ouida et célèbre la vie. Esprit libre, Marie-Cécile Zinsou est restée fidèle à la promesse faite à son grand-oncle président, celle de changer le monde. Marie-Cécile Zinsou, pionnière de l'art contemporain au Bénin, c'était un épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et Sophie Janin, avec la participation de toutes les équipes de la Fondation et du studio Joël Andriano Meresoa et des Petits Pinceaux, spéciale dédicace à tous les artistes rencontrés, sans lesquels je n'aurais pu réaliser ce documentaire. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur la page de La Marche du Monde, sur Internet, où vous découvrirez le site et les images des 20 ans de la Fondation Zinsou.
Marie-Cécile Zinsou, pionnière de l'art contemporain. C'était le 7e épisode de notre collection thématique African Queens. Dans le prochain épisode, vous découvrirez Emilienne Mukansoro, l'une des toutes premières psychothérapeutes du Rwanda. Rescapée du génocide, sa parole répare les vivants. À écouter sur RFI.fr, RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.